Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast du Journal des Tribunaux. Je suis Georges Alberda, le rédacteur en chef du Journal des Tribunaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec vous Vincent Cassiers, qui est chargé de cours à l'UCL, l'UCL Louvain, et qui est avocat au barreau de Bruxelles. Et il a commis avec 9 co-auteurs un dossier des Journaux des Tribunaux, un DJT. Alors je dois quand même citer le nom des co-auteurs. Philippe Campolini, André Putmans, Bernard Van Brabant, Hélène Ziolanka, Steve Gilson, France Lambinet, Marie Vassemans et Marie Sculier. Et ces 10 auteurs ont rédigé le prochain dossier des Journaux des Tribunaux consacré au secret d'affaires. Au cours de cette émission, nous allons bien entendu aborder le régime de protection des secrets d'affaires, la directive et sa transposition en droit belge, et le mettre en relation, en rapport, en tension avec, par exemple, les droits intellectuels, le droit social ou autre. Alors, première question relative au contenu, Vincent Cassiers, la mise en contexte et aussi une question de linguistique, ce sont les secrets au pluriel d'affaires au pluriel.
Ce sont les secrets d'affaires au pluriel, mais cette question est intéressante parce que dans la directive, il est prévu que ces secrets sont des informations. Le législateur belge, dans la transposition de la directive, a prévu qu'un secret d'affaires pouvait être une information. Donc il y a en effet un petit enjeu sur la pluralité à cet égard.
C'est ça. Or, les informations secrètes, ben, elles sont importantes, elles ont une valeur importante dans le monde des affaires. Et la question essentielle est évidemment le maintien de leur confidentialité pour stimuler la croissance, l'innovation à une époque de transparence. Mais même à cette époque de transparence, le droit reconnaît la légitimité de la protection du secret.
Oui, et la protection du secret aujourd'hui devient peut-être paradoxalement, mais en réalité de plus en plus importante. On l'a vu récemment dans l'actualité, des sociétés belges qui sont des sociétés bien établies, des grands groupes multisites ont été victimes de piratage informatique, ce qui a causé des pertes colossales pour ces entreprises. Et la cause de ces problèmes est à rechercher dans l'absence ou l'insuffisance de mesures de protection des secrets de l'entreprise.
D'organisation
et de l'organisation.
Des secrets.
Par ailleurs, il y a de plus en plus de technologies qui sont protégées par les secrets. Mmh. On peut penser notamment à l'intelligence artificielle. On a entendu le commissaire Breton présenter il y a quelques jours le plan de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle. En très très grande partie, l'intelligence artificielle a recours à la protection par le secret. Notamment parce que les algorithmes qui sont à la base de ces technologies ne sont protégeables que par le secret.
Bien sûr. Donc, il y a des mesures de protection qui sont envisagées au plan européen, au plan belge. Alors, ces mesures de protection du secret, expliquez-nous. Quelle est leur nécessité? Ça, je crois que vous y avez déjà répondu implicitement. Mais aussi, quel type de mesures sont envisagées? Et un peu plus loin, quel est l'enjeu plus global de la sécurité informatique par rapport au type de mesures prises ou envisagées?
Au niveau des mesures de protection, elles sont absolument essentielles pour la mise en œuvre de la protection des secrets d'affaires. À commencer par le fait que le secret d'affaires est défini légalement comme une information qui a fait l'objet de mesures de protection. Dès lors, si l'entreprise ne prend pas des mesures de protection adéquates, elle ne pourra tout simplement pas faire appel au cadre juridique de la protection du secret des affaires. Les types de mesures à prendre, elles sont de divers ordres. Elles peuvent être purement physiques, avoir des systèmes de sécurité pour l'accès au bâtiment. Elles seront très souvent également de nature informatique. La protection les secrets d'affaires sont aujourd'hui de plus en plus digitalisés, numérisés. Et la protection du système de sécurité informatique est fondamentale pour s'assurer de la protection des secrets. Il y a une stratégie européenne qui est partiellement transposée en droit belge qui vise à renforcer la sécurité informatique. On sait que c'est un enjeu absolument fondamental, essentiel des prochaines années. Le niveau de sécurité informatique dans les entreprises est en général beaucoup trop faible. Et ces mesures de protection, elles sont essentielles pour protéger tout le capital immatériel de l'entreprise et éviter que ce soit une fuite de secrets d'affaires vers un concurrent ou des problèmes beaucoup plus graves de piratage tels qu'ils ont été relayés dans l'actualité.
Absolument. Au fond, on peut dire que le secret d'affaires est à une entreprise, j'oserais encore dire commerciale, mais une entreprise, ce que la protection de la vie privée est à l'individu.
Le parallèle avait déjà été fait dans la jurisprudence. Les entreprises ont le droit à la protection de leur vie privée et cette protection peut prendre la forme du secret des affaires. Ceci étant précisé, on relèvera quand même certaines divergences entre la logique, j'ai envie de dire, de la protection de la vie privée et celle du secret des affaires, où certains intérêts présents dans le cadre vie privée ne sont pas nécessairement présents.
Bien évidemment, il faut adapter. Alors, quels sont, on a parlé du droit européen, de la directive, ce sont d'ailleurs deux passages, deux extraits ou deux articles du livre qui sont dus, si je ne me trompe, à la plume de Philippe Campolini et d'André Putemans, qui ont envisagé ça plus particulièrement. Mais quels sont les axes principaux de la directive et aussi le degré d'harmonisation ? Jusqu'où va cette directive ? Quel type d'harmonisation avons-nous ? Est-ce que c'est une harmonisation maximale ou une harmonisation qu'on peut qualifier de mixte ?
Alors, l'harmonisation est formellement mixte, en ce sens que la directive harmonise certains éléments de la protection des secrets d'affaires et formellement laisse une grande marge de liberté aux États membres pour aller au-delà. C'est ce qui est visé dans l'article 1 de la directive. Toutefois, lorsqu'on examine le texte plus en détail, et c'est ce qu'André Putemans avait d'ailleurs très, très vite relevé, il apparaît que sur presque tous les points du régime de protection mis en place, le législateur européen n'a pas laissé de marge de liberté aux États membres et on parle dès lors d'une harmonisation mixte, mais qui tend plutôt vers une harmonisation maximale. Alors, oui ?
Oui, oui.
Le grand mérite de cette directive, c'est tout d'abord d'imposer aux États membres d'adopter un régime de protection du secret des affaires. Des études ont été réalisées avant la proposition de directive. Ces études ont montré qu'il existait une énorme diversité quant à la protection des secrets des affaires parmi les États membres. Certains le protégeaient par le droit de la concurrence déloyale, d'autres par le droit pénal, d'autres par le droit commun et n'avaient en fait presque aucune protection spécifique. D'autres avaient un régime de protection très étoffé. Il était donc vraiment important de pouvoir harmoniser la protection des secrets des affaires dans les États membres, notamment parce que les informations secrètes sont amenées à circuler. Mmh. Le secret ne vise certainement pas à empêcher la circulation de l'information, mais au contraire à la stimuler en sécurisant et en encadrant
les bases, oui.
Ces transferts.
Il y a alors un grand mot qu'on retrouve dans cette matière, mais comme dans beaucoup de matières, et notamment européennes, qui est la proportionnalité. La proportionnalité qui est un peu la clé du système. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la directive harmonise la définition du secret des affaires, elle harmonise les éléments, les conditions de la protection, si l'on peut dire. Je ne parlerai pas de droit conféré, mais ce qui est interdit et ce qui est autorisé, ainsi que les différentes mesures qui doivent être disponibles pour la mise en œuvre de la protection. À chaque étape de la directive, on va retrouver ce mot de proportionnalité. Pourquoi ? Parce que la directive vise en réalité à mettre en équilibre des libertés fondamentales qui sont en tension. On voit par exemple avec la question des lanceurs d'alerte que la protection du secret des affaires qui repose sur la liberté d'entreprendre entre en conflit avec la liberté d'expression. On verra peut-être qu'en matière de contrat de travail, la protection du secret des affaires peut entrer en conflit avec la liberté de travail, qui est un autre droit fondamental. Et la proportionnalité est utilisée pour équilibrer ces libertés. Cela signifie que la directive n'a pas pu harmoniser jusqu'au bout la protection du secret des affaires. Il reste un certain nombre de zones grises, de zones où la proportionnalité devra être définie. Et on peut penser que la Cour de justice de l'Union européenne ne manquera pas à la suite des questions préjudicielles qui lui seront adressées, d'essayer de clarifier et de définir les grands équilibres dans la protection du secret des affaires.
Rôle classique et traditionnel de la jurisprudence, comme dans beaucoup de matières. Alors, lorsque l'on consulte la table des matières du futur ouvrage, on voit que, quittant le champ européen après avoir examiné l'aspect plus spécifique, il y a une partie qui est due à la plume de Bernard Van Brabant qui traite du secret des affaires et du contrat, qui est un point extrêmement important. Puis nous avons le contrat de travail qui est envisagé. Et je crois que le dernier, c'est le droit administratif. Enfin, il y a différents aspects. Il est impossible de les envisager tous ici. Alors, deux, trois questions. Par exemple, secret d'affaires et droit intellectuel. C'est malgré tout un titre qui paraît assez prometteur, parce que s'il y a des problèmes qui se posent, c'est peut-être bien en matière de droit intellectuel.
En effet, on a eu dans la jurisprudence belge une affaire extrêmement intéressante à ce sujet, l'affaire Noël Marquet, qui est connue des praticiens plutôt dans le domaine de la concurrence parasitaire. Mais si l'on regarde les différents tenants et aboutissants de cette affaire, c'est une affaire dans laquelle des droits intellectuels s'opposaient au secret d'affaires. Et c'est un de mes grands regrets que cette question-là n'ait pas fait l'objet de dispositions légales. En réalité, c'est un trou noir dans le régime de protection aujourd'hui envisagé. Les secrets d'affaires peuvent être protégés au titre des secrets, mais ils peuvent également donner lieu à des droits intellectuels, que ce soit des brevets ou des droits d'auteur. Une question qui peut apparaître dans la pratique est celle de la résolution d'un conflit de droit dans les situations dans lesquelles celui qui détient le secret d'affaires n'est pas titulaire des droits intellectuels relatifs à ce secret. Il y aura là, à mon avis, beaucoup de travail à réaliser dans la jurisprudence, puisque le législateur ne s'est pas penché sur cette question, et nous essayons d'esquisser quelques pistes de solutions dans l'ouvrage pour ce type de conflit.
Ceci dit, c'est un peu le rôle de la doctrine de la jurisprudence. On ne peut pas demander au législateur non plus de prévoir dans tous les détails. Il y a alors le contrat de travail qui peut poser des problèmes de secret également.
Le contrat de travail est dans les statistiques la plus grande source, de très loin, la plus grande source de conflit en matière de secret d'affaires. La protection des secrets d'affaires, telle que nous l'avons conçue en droit européen, est très fortement inspirée du droit américain. Ce n'est pas un hasard. Les États-Unis sont le pays qui a la plus longue tradition juridique de protection des secrets d'affaires. Et l'on observe aux États-Unis que 85% des litiges en matière de secrets d'affaires opposent un employeur à son ancien employé. Il est donc évidemment, pour la pratique, extrêmement important de faire attention à la protection des secrets d'affaires dans le cadre des contrats de travail. Lors de la transposition de la directive, le législateur belge a adapté l'article 17 de la loi du 3 juillet 78 sur les contrats de travail pour intégrer la protection des secrets d'affaires. Cependant, il y a une série de mesures d'ordre pédagogique, notamment à mettre en œuvre à l'égard des travailleurs, pour s'assurer d'une protection effective. Il reste un point extrêmement sensible qui concerne les informations mémorisées. On sait qu'un employé ne peut pas quitter l'entreprise avec des instruments de travail, des fichiers informatiques ou d'autres supports qui contiendraient des secrets d'affaires, mais l'employé va quitter l'entreprise avec un ensemble de connaissances et d'expériences qu'il a mémorisées.
Et parfois plus, mais bon.
Et parfois plus dans des cas plus délicats. La question qui reste un peu non résolue à ce jour est celle du sort des informations mémorisées. Est-ce que l'employé peut réutiliser ces informations ailleurs? On ne sait pas le contraindre à les oublier, mais est-ce qu'on peut l'empêcher alors d'aller travailler chez un concurrent?
Ça fait partie de son expérience professionnelle aussi.
Voilà, tout ça est un ensemble de...
Un domaine important.
Voilà.
Un domaine important. Et alors, il y a aussi... Pour les processualistes, la question de la production en justice de documents secrets, on rencontre ça souvent dans le domaine des affaires, de l'arbitrage, etc. Il y a d'ailleurs une disposition nouvelle du code judiciaire qui en parle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot donc du secret d'affaires et du droit judiciaire? Comment faire lorsque paradoxalement, on veut soumettre au juge quelque chose de confidentiel, ce qui heurte le contradictoire.
En effet, c'est une question extrêmement délicate. Vous avez raison de le mentionner. Elle suscite bien souvent le recours à des mécanismes d'arbitrage lorsque le litige se déroule dans un contexte contractuel. En dehors de ce type de contexte, il est difficile évidemment d'imposer le recours à l'arbitrage, et l'entreprise qui est victime d'une atteinte à ses secrets est bien souvent réticente à engager des poursuites contre l'auteur de l'atteinte parce que, en l'absence de dispositions spéciales, l'entreprise sera amenée, paradoxalement, à divulguer davantage ses secrets dans une procédure publique, ce qui est évidemment tout à fait contraire avec l'objectif recherché. C'est pourquoi le législateur européen et à sa suite le législateur belge ont organisé la protection des secrets d'affaires dans le cadre des procédures judiciaires. Cette protection concerne tout type de procédure judiciaire, non seulement celle qui aurait pour objet la protection des secrets des affaires, mais également une procédure qui aura un autre objet, même un divorce pourrait être concerné.
Ça peut présenter dans cette matière-là aussi, bien sûr.
Et donc, il y a des mesures qui ont été prévues. Première mesure, le fait d'imposer une obligation de confidentialité renforcée à toutes les personnes qui interviennent dans la procédure, non seulement les magistrats et les avocats, mais également les greffiers, les huissiers, toutes les personnes qui peuvent être impliquées par la procédure. Deuxièmement, il est prévu que le tribunal puisse décider, lorsqu'il est confronté à des secrets d'affaires, que ces informations ne seront communiquées qu'à un nombre limité de personnes. Afin de protéger le principe du contradictoire, il y a un backstop, il y a un filet de sécurité qui a été prévu. Dans tous les cas, au moins un avocat et un représentant de chaque partie devront avoir accès à l'ensemble des informations. Mais il est possible de limiter la divulgation à ces seules personnes. Et puis enfin, il a été prévu, bien sûr, de pouvoir éviter la publicité des audiences et de pouvoir produire deux versions de la décision de justice. Une version non confidentielle, mais dans laquelle les secrets d'affaires auront été occultés, et puis une version qui devra rester confidentielle, dans laquelle les secrets d'affaires pourront être mentionnés.
Eh bien, comme vous vous en rendez compte, chers auditeurs, la matière est absolument passionnante et transversale, comme on dit pour parler contemporain, dans différents domaines du droit. Donc, ceci conclut l'épisode actuel du podcast du Journal des Tribunaux. Je remercie notre auteur de sa présence et de sa participation à l'émission au nom de tous ses co-auteurs. Et quant à vous, je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochains épisodes.